Merci d'être encore toutes et tous ici. Je vais me limiter à présenter les intervenants de la table ronde par leur université d'exercice actuelle, étant donné que je crois qu'ils ne sont plus à présenter. Donc Sanjay Subramaniam de l'Université de Californie à Los Angeles, Gabor Ksok de l'Université, je m'excuse par avance, Eötvös Loránd, et Yann Merkel de l'Université de Groningen, tant leurs contributions respectives sont riches à la fois de la discussion de l'œuvre de Fernand Braudel elle-même et de la compréhension de sa trajectoire professionnelle et intellectuelle. Donc il me faudrait citer plusieurs dizaines d'ouvrages et d'articles, ce qui me paraît inutile pour préserver du temps. Each of you will have about 15 to 20 minutes to make an initial statement, and we will then have a free discussion about the main issues arising from your talks and from the conference. I can suggest, before we begin, several threads of discussions taken from the conference itself: the transposition slash decentering slash decolonizing of Braudel's frameworks in the light of recent scholarships. This was induced by François Gipolou, Mohamed Ouahdi, and Mike O'Sullivan's contributions to this conference. The interdisciplinarity Braudel claimed in the light of today's organization and methodologies of the social sciences. At what point are we with intelligence, artificial intelligence, for instance? This was inspired by Cyprian Brodbrank and Christian Grataloup's contributions. The evolving context of his evolving writings to the understanding of Braudel in time and space without being anachronic. Guillaume Calafat, Giuseppe Marcocci, also the debate about the L'Histoire mesure du monde yesterday night. The contact and maybe no contact zones of Braudel scholarship, for instance, with scholars like Immanuel Wallerstein, that we mentioned very briefly, too briefly maybe, or scholars like Norbert Elias. This was inspired, in fact, by the discussion of the by the paper and discussion of Terine Terzioğlu yesterday. The future of unpublished manuscripts. And of course, this was inspired by Charlotte de Castelnau-L'Étoile a few moments ago. The holes in the hole in Braudel's geo-histoire of the global, such as maybe the African kingdoms or circulations. This was inspired by Ousmane Traoré and Miyoko Oka. The contribution of Braudel to proper European history. Because there is a European history in Braudel's work, like, for instance, the influence of modern cities to the emergence of the modern European world economy and maybe the European Union today. This was inspired by Marie-Vie Kossouf-Marinier. The validity of certain sources, like Iris Cantor, inspired us this afternoon, and more so of certain key notions, such as civilisation. Grammaire des civilisations, civilisation européenne au pluriel, civilisation matérielle, etc., etc. So maybe these are the themes that we can introduce in the debate, and with no longer ado, I will give the floor to our Sanjay Subramaniam. Thank you.
Merci. Thank you. Actually, I'm going to suggest that since I think we have prepared something, each of us, we might also want to present that and also perhaps leave some of your questions for
Of course.
For the larger debate. Okay, donc je vais revenir en français bon, pour des raisons que j'ai déjà expliquées hier, non? Il y a une chanson brésilienne qui dit Tristeza não tem fim, felicidade sim. Bon, on peut dire en anglais « All good things come to an end » et nous sommes là. Quand j'étais en train de réfléchir sur cette question, j'ai parcouru toute une série de choses que j'avais dans mon ordinateur qui pouvaient m'aider pour cela, et je suis retombé sur un article assez intéressant qui m'a été envoyé par un ami et un collègue, Peter Miller, qui m'a envoyé un article qu'il avait écrit sur une question qui me semble assez intéressante pour commencer, c'est-à-dire le rencontre qui n'a jamais eu lieu entre Fernand Braudel et Shlomo Goiten. Donc Shlomo Goiten, pour expliquer, c'était le grand spécialiste des documents de la Genizah, et donc il a écrit en 5 volumes quelque chose qui s'appelle une société méditerranéenne, Mediterranean Society, où il parle donc de ces marchands juifs surtout autour de l'époque du califat fatimide, mais un peu avant, un peu après, ces gens qui ont fait le commerce entre l'Espagne, l'Afrique du Nord, parfois même l'Italie, en Égypte, et ils sont même allés par la voie de la mer Rouge jusqu'en Inde et un peu en Asie du Sud-Est. Donc, c'était une autre conception de la Méditerranée qu'on trouve chez Goiten. Et en plus, ce qui est intéressant, à cause du fait que parfois on reproche à Braudel un peu d'aveuglement par rapport à la question islamique. Donc vous avez avec Goiten quelqu'un qui avait en fait essayé de faire autre chose avec le rapport entre culture islamique, culture chrétienne, culture juive et ainsi de suite. Mais ce qui nous démontre Peter Miller en se basant sur les archives de la Maison des sciences de l'homme, c'est que je pense qu'il y a eu des efforts, notamment par Clemens Heller, mais finalement, la rencontre physique n'a jamais eu lieu, je pense. Hein. Mais il y a eu échange et échange d'idées, et il se peut que, notamment que Goiten a subi un peu l'influence de Braudel. Donc mon point de départ, c'est cette question justement de Braudel et l'islam, et en passant par cela, je vais arriver à une question plus large. Braudel et l'islam, on pense que c'est une question qui a, depuis le départ, troublé les lecteurs de la Méditerranée. Et on sait que peut-être à cause de quelques critiques, peut-être des critiques aussi exprimées oralement, qu'il y a eu des changements sur cette question entre la première et la deuxième version. C'est-à-dire, dans la deuxième version, il y a beaucoup plus sur l'Empire ottoman que l'on avait dans la première version. Il se peut que sur le Maghreb, il y a toujours des choses à désirer, comme Mohamed Ouweldi nous a expliqué. Et en fait, l'attitude de Braudel envers l'islam, c'est intéressant, parce que on l'a dit, et avec raison, qu'il a été beaucoup influencé par Henri Pirenne. Mais il faut dire que depuis le départ, il s'est démarqué de Pirenne et certaines idées de Pirenne, par exemple l'idée que l'islam représentait une espèce de coupure. Pour Braudel, c'est absolument clair que ça ne représente pas de coupure. Il y a toujours des conversations des deux côtés de la Méditerranée. En fait, le problème pour lui, je pense, au départ, c'était une question de ne pas avoir accès aux matériaux et aux sources pour traiter la question. Si on regarde la première édition, il a utilisé des choses classiques. Par exemple, il a beaucoup utilisé le travail du diplomate et historien autrichien Josef von Hammer-Purgstall, qui a fait des traductions, notamment des chroniques ottomanes comme de Mustafa Naïma et ainsi de suite. Mais entre la première et la deuxième édition, on voit qu'il y a des relations de plus en plus étroites entre Braudel et l'historien turc kémaliste, il faut dire, Ömer Lütfi Berkan, qui avait aussi publié des choses donc par la suite dans les annales. Et donc, il a utilisé ça pour améliorer, changer un peu la vision de l'Empire ottoman et de l'islam. Mais le problème, c'est que, étant kémaliste, Barkhane ne s'intéresse pas lui-même beaucoup à l'islam. Donc, en fait, ce qu'il a, il a donné, c'était des matériaux portant sur la démographie, sur le système fiscal, sur la vie économique. Donc, on a tout cela. Mais, par exemple, sur la question de la place de l'islam, du sunnisme, le type de questions qui ont été traitées par Derin Terziolo, zéro. C'était pas son affaire. Et c'est aussi intéressant que, justement, à ce moment-là, entre les deux éditions, il y a, c'est un moment quand il y a une espèce d'essor dans les études portant sur le monde musulman en France. On lance la revue The Journal of Economic and Social History of the Orient, qui était une revue trilingue. Le français qui a joué le rôle le plus important dans tout cela, c'était Claude Cahen. Mais vous voyez, encore une fois, c'était des gens un peu, parfois un peu marxisants, mais de toute manière, pour eux, l'islam en tant que religion ne comptait pas. Alors, donc que faire avec ce constat, c'est-à-dire cette espèce d'absence d'intérêt pour l'islam? À mon avis, ça a à voir avec une question que Charlotte de Castelnau a très justement soulevé, c'est-à-dire, je pense qu'il y a, la religion n'était pas vraiment un sujet de Braudel. Contrairement à Marc Bloch, auteur des Rois Thaumaturges, de Lucien Febvre, auteur de Le problème de l'incroyance, la religion de Rabelais, c'était pas un sujet pour Braudel. Et ça avait des conséquences très intéressantes, à mon avis. Et là, je passe à mon deuxième sujet. Parce que une des questions c'est le petit texte qu'on avait présenté hier, l'histoire de mes yeux de monde. En fait, je me suis dit, en lisant ce texte, il y a un certain nombre d'auteurs qui sont cités, mais il y a aussi d'auteurs qui ne sont pas cités. Et alors, par exemple, pour un certain nombre de ces absences, la raison, c'est assez évidente, il n'y a pas de Marx. On est dans un camp d'Allemands pendant la guerre, on ne cite pas Marx tous les jours. Donc ça, ça peut être assez clair. Mais la chose qui m'a frappé, c'est en fait l'absence est directe et indirecte de Max Weber dans cette réflexion. Alors, il est évident que Braudel connaissait Max Weber. Et aussi, on ne peut pas dire à son égard ce qu'on a dit sur beaucoup de gens en France, parce que beaucoup de Max Weber n'a pas été traduit en français à l'époque. Mais il n'avait pas besoin de traduction. Donc, c'est manifeste qu'il connaissait ce travail, mais il l'a pas mentionné, il l'a pas abordé d'une façon même indirecte. Et si je regarde l'ensemble de son œuvre, j'ai de la difficulté pour retrouver une espèce de face à face avec Max Weber. Et pour quelqu'un qui s'intéresse comme un sujet fondamental à l'histoire du capitalisme, c'est quand même frappant ça. Hein? Bien sûr, il ne dit pas grand-chose sur Zombart non plus, mais Zombart avait quand même une réputation un peu sulfureuse, et on peut imaginer qu'il y avait des raisons pour ne pas citer Zombart. Mais Max Weber, et ça a des conséquences. Parce qu'il faut dire que Max Weber nous a donné une certaine lecture, justement, de l'histoire globale. Et c'était une lecture de l'histoire globale qui passait justement par l'idée des civilisations. Et comment est-ce qu'on définit les civilisations? On définit les civilisations en passant par l'idée de religion. Donc, c'est comme ça, paf, paf, paf. Il écrit des livres sur le bouddhisme et l'hindouisme. Il écrit des choses sur le confucianisme, sur les protestants, sur les juifs. C'est comme ça qu'on organise le monde, par les religions. On peut être d'accord, on peut pas être en désaccord, mais néanmoins, c'est une façon de faire. Et même si on ne le cite pas, je pense qu'une fois que Weber avait articulé cette façon de voir le monde, personne ne pouvait échapper dans son subconscient de cette façon d'organiser le monde. Mais néanmoins, cette absence assez curieuse de débat vigoureux avec cette vision Weberien, soit pour l'affirmer, soit pour présenter des arguments contre. Et ça, je trouve intéressant, fascinant. Je pense que ça pourrait aussi expliquer un peu les malentendus qu'on trouve parfois entre l'historiographie allemande, beaucoup plus weberienne, et l'historiographie des annales. Il faut aussi se rappeler que dans les années 50, les États-Unis avaient été conquis par le weberianisme, qui était un peu ersatz, parce que c'était pas l'original, c'était Talcott Parsons, qui avait plus ou moins fait champ rase des départements d'histoire aux États-Unis. Ils sont tous devenus des weberiens, plus ou moins. Là aussi, c'est malentendu qu'on a eu pendant les années 50-60, jusqu'au moment quand Sean Reynolds va finalement traduire en 62 les deux volumes de la seconde édition de la Méditerranée. Je pense qu'il y a peut-être une voie d'explication qui peut passer par là. Alors, j'arrive à mon dernier point. Par contre, c'est intéressant aussi de voir qu'à l'intérieur de l'École des hautes études en sciences sociales, maison qu'il présidait, Max Weber avait une importance très importante, très considérable dans certains centres d'art culturel. Comme par exemple Louis Dumont, qui était celui qui contrôlait pendant assez longtemps l'esprit du centre d'études de l'Inde, était Nolens Volens, un type de Weberien. De la même façon, dans beaucoup de ces centres d'art culturel, Weber était très présent. Tandis que, je pense qu'il était plutôt absent, pas seulement dans l'esprit de Braudel, mais probablement dans le CRH, dans le centre de recherche historique. Et ça m'amène à la dernière question que je veux soulever. J'ai évoqué le nom de Denis Lombard hier matin, qui était quelqu'un que j'ai connu très bien dans les dernières années de sa vie, entre 88 et 98. Une des questions qu'on discutait souvent, c'était justement le problème des aires culturelles. Parce que l'École des études en sciences sociales, c'était parmi les rares institutions en France qui avaient quelque chose qui s'appelait une division des aires culturelles. Parfois, on s'est posé la question, est-ce que on avait vraiment besoin de ça? Est-ce que c'était la façon d'aborder les questions? C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait imaginer qu'il y avait un centre de recherche historique? Et puis, on avait j'hésite de prononcer le mot, mais on avait ces centres pour Bougnoul. Est-ce que c'était un peu pas ça, un peu cette division de monde qu'on proposait? Je pense que quand on est revenu sur l'histoire globale en 2001, dans ce débat qu'on a eu, Boris était présent, qu'on a publié dans les annales, c'était justement parce qu'on voulait revenir sur cette question. Et je pense que là, c'est une question que me laisse avec des points d'interrogation. Denis Lombard me disait toujours qu'il faut des aires culturelles parce que c'est la seule façon de se défendre. Parce que sinon, on va nous évacuer entièrement. On va faire table rase et on n'aura plus d'Inde, plus de Chine, rien du tout, sauf l'Europe et peut-être un peu les États-Unis. C'était une façon de voir ça comme une stratégie défensive. Mais il y avait un prix à payer aussi, un prix parfois assez lourd. Et donc, c'est une question à laquelle je viens finalement en passant par la question de l'islam chez Braudel, la question du weberianisme et l'attitude de Braudel envers ça, et finalement donc la question de savoir comment est-ce qu'on pense au monde. Est-ce qu'on pense au monde comme quelque chose avec lequel on fait l'histoire globale, ou il y a cette espèce de découpage, qu'est-ce qu'on fait avec? Voilà les quelques questions que le colloque et ma relecture de Braudel m'ont provoqué. Merci.
Merci Sanjay. Donc je vais passer la parole à Gabor.
Merci bien. Donc tout d'abord, je voudrais sincèrement remercier cette invitation honorante. Je voudrais aborder une question dont on a parlé peu jusqu'ici. Cependant, lorsqu'on évoque l'importance de Braudel pour l'historiographie internationale, on ne peut ignorer l'ampleur de son activité en matière de diplomatie scientifique, par laquelle il entendait renforcer la coopération des historiens au-delà des frontières politiques. C'est dans ce cadre que s'inscrivent ses efforts visant à établir des contacts de l'autre côté du rideau de fer. Si on regarde ses motifs, on peut énumérer plusieurs choses, comme sa solidarité avec les historiens défavorisés par des régimes communistes, sa conviction que la France devrait jouer un rôle intellectuel de premier plan dans le rapprochement entre les deux parties de l'Europe. D'ailleurs, comme Braudel a déclaré dans un discours peu avant sa mort, je cite, « L'éclat de la France n'est pensable qu'à travers son ouverture dans le monde et particulièrement sur l'Europe ». Mais tout ceci dépendait intimement à ses ambitions scientifiques, c'est-à-dire la recherche de l'approche comparative et interdisciplinaire, les deux piliers de sa vision globale de l'histoire. Comme Peter Burke a remarqué avec plein d'esprit, unlike Philip II, the man obsessed with details, Braudel always had a vision of the whole. L'une des premières formulations de sa volonté d'ouvrir vers l'Est se trouve dans le premier numéro des Annales 1967. Ce n'était pas une manifeste spectaculaire, mais une simple note critique à la tête d'un compte-rendu consacré à des travaux russes d'histoire urbaine. La note commence ainsi. Suivre et suivre de près le travail des historiens russes. La tâche s'impose à nous. Ou nous risquons de tourner le dos à tout un continent d'histoire. Aussi bien sommes-nous décidés à multiplier, dans la mesure du possible, les notes critiques et les analyses en ces vastes et essentiels domaines. Et la note se termine par cet avertissement. Ce point de départ est utile à fixer. Alors, bien que ce texte ne mentionne que les Russes, à partir de ce moment, le nombre des textes des historiens des pays socialistes augmente spectaculairement dans les annales par rapport surtout à la première décennie de la guerre froide. Il a connu que les contacts les plus solides se sont développés avec la 6e section et la Pologne dès 1958. Mais des liens tout aussi étroits se sont tissés avec la Hongrie, contrairement aux autres pays socialistes, malgré les débuts encourageants des années 1960, par exemple avec la Tchécoslovaquie ou avec la Roumanie. Dans un article sur l'impact de l'école des annales en Europe de l'Est, Christophe Pomian a confirmé la singularité des cas polonais et hongrois par plusieurs indices statistiques. Ainsi, par exemple, je cite Kim, en 1976, les annales comptaient 7 abonnés en Bulgarie, 7 en Roumanie, 9 en Tchécoslovaquie par rapport à 28 abonnés en Pologne et 23 en Hongrie. Très certainement, la plupart sont des instituts. Donc, je voudrais évoquer les relations franco-hongroises, moins connues que celles avec la Pologne, pour illustrer comment Braudel a construit la coopération avec l'autre côté du rideau de fer et comment nous pouvons l'évaluer avec le recul de plusieurs décennies. En raison de la révolution de 1956, la coopération avec les historiens hongrois n'a pu commencer qu'avec la consolidation du régime de János Kádár. Mais la prise de contact dépendait aussi du contexte international et en particulier de l'évolution favorable des relations diplomatiques franco-hongroises. Comme on le sait, la direction soviétique a accueilli positivement la politique européenne de Charles de Gaulle. Dans ce cadre, la politique étrangère française entendait renforcer sa présence en Europe centrale et orientale au moyen de divers accords culturels et scientifiques conclus avec chaque pays. Donc, les régimes communistes, la vie scientifique a été réorganisée et centralisée suivant le modèle soviétique. Donc, le système a relégué les universités à un rôle secondaire dans le domaine de la recherche, au profit des instituts créés pour chaque discipline et placés sous la tutelle des académies. La coopération scientifique pouvait passer donc par des accords entre la France et les académies des sciences des pays socialistes. Alors, l'intention de rapprochement de la diplomatie française, approuvée par l'Union soviétique, offrait au régime de Kadar une excellente opportunité de sortir de son isolement et d'accroître sa reconnaissance en Occident. De plus, la coopération française signifiait pour la Hongrie la possibilité d'accéder à la science et à la technologie de l'un des pays les plus développés. Le contrat de coopération culturelle franco-hongrois a été donc conclu en 1961. C'est vraiment exceptionnel, car les accords de même type avec d'autres pays capitalistes n'ont été conclus qu'à partir des années 1970. Donc cet accord comprenait un programme d'échange de chercheurs entre l'Académie hongroise et la CNRS, couvrant tous les domaines scientifiques, mais dans lequel la partie hongroise entendait surtout favoriser l'envoi en France des chercheurs en sciences naturelles et de l'ingénierie. Cette situation défavorable aux sciences sociales n'a changé que quelques années plus tard grâce à Braudel. Braudel a lancé l'idée de la coopération entre la 6e section et l'Académie hongroise la première fois en 1960. Il a proposé un nombre important de bourses pour les représentants des sciences sociales et historiques, laissant leur sélection entièrement à la partie hongroise. De plus, il n'envisageait pas cet accord sur la base d'une stricte réciprocité. Il proposait plutôt de suivre l'exemple de la coopération avec la Pologne, c'est-à-dire de faire venir en Hongrie des savants français pour un court séjour afin de donner des conférences. L'administration de l'Académie hongroise se sentait véritablement embarrassée par cette proposition. Elle trouvait surtout inacceptable que le nombre de bourses proposées par Braudel uniquement pour les sciences sociales était nettement supérieur que le nombre de bourses garanties par le contrat CNRS pour l'ensemble des sciences. Ensuite, les bureaucrates ne croyaient pas à la déclaration de Braudel, à savoir qu'ils n'attendaient pas de réciprocité dans le cadre du programme de bourses et ils craignaient de ne pas avoir assez d'argent pour accueillir autant de chercheurs français. Il a été même évoqué, je cite, qu'il n'y aurait pas suffisamment de cadres compétents et convenables à tous égards pouvant être envoyés en France. Mais Braudel a obtenu le soutien des ministères français et hongrois des Affaires étrangères, si bien que l'Académie hongroise ne pouvait rejeter officiellement la proposition. Mais la bureaucratie a réussi à retarder les négociations. C'est la raison pour laquelle Braudel s'est rendu finalement à Budapest en automne 1962. Et il est parvenu à se mettre d'accord avec la direction de l'Académie hongroise sur ses bases initiales, à ceci près qu'à la demande de la partie hongroise, il a réduit le nombre des bourses, notamment de 36 à 24 bourses mensuelles. Toutefois, les négociations sur les détails se sont prolongées jusqu'en 1966. Mais la bureaucratie française a également posé parfois des problèmes. En 1965, par exemple, l'attaché culturel de l'ambassade à Budapest a refusé de délivrer des visas au premier abord aux historiens hongrois invités à Paris, car ni le Quai d'Orsay ni personne d'autre ne l'avait pas informé du programme de bourse initié par Braudel. J'ai cité des épisodes un peu plus en détail afin de donner un aperçu des problèmes auxquels il a fallu faire face. Braudel a suivi la tactique, me semble-t-il, consistant à toujours devancer d'un pas les bureaucrates, les mettant ainsi en position d'agir sous pression, et il est parvenu de cette manière à leur imposer sa volonté. Ajoutons d'ailleurs que dans cette démarche, il a été épaulé par Clemence Heller, son bras droit. Enfin, il y a encore un autre facteur important qui a influencé les relations entre les historiens français et hongrois et dont il faut parler. À savoir, le lancement de cette coopération a été facilité davantage par le changement d'attitude officielle de l'historiographie soviétique dans les années 1960, notamment à la suite du 22e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique en 1961. La lutte idéologique implacable avec les historiographies non marxistes est restée l'objectif principal déclaré, mais le rejet total et hostilité antérieure à l'égard de l'historiographie occidentale ont été condamnés et qualifiés de dogmatiques et nihilistes. Les nouvelles directives ont proposé une approche nuancée de l'historiographie dite bourgeoise et elles ont même encouragé le dialogue avec les courants non marxistes mais considérés comme progressistes. Alors, aux yeux de plusieurs historiens soviétiques influents, l'école des annales incarnait précisément ce type de courant, notamment en raison de sa proximité perçue avec certains aspects du marxisme. Ainsi, Ilya Galkin, ancien recteur de l'université Lomonosov de Moscou, déclarait, je cite, « Malgré quelques insuffisances méthodologiques et un extrait de structuralisme, il est certain que la méthodologie marxiste et les idées de la grande révolution socialiste d'octobre exercent une influence sur le siècle des annales et que le professeur Brodel les œuvres de professeur Brodel constituent dans l'ensemble une contribution utile à la science historique. » Les historiens hongrois ont pu alors en conclure qu'ils recevaient feu vert pour coopérer avec Brodel et plus généralement qu'il y a une chance pour rétablir leurs contacts occidentaux totalement coupés après la prise du pouvoir communiste en 1949. En fait, cette ouverture vers l'Est, vers l'Ouest pouvait rester durable grâce à la libéralisation progressive du régime de Kadar. Dans une directive de 1968, le Parti communiste a déclaré, par exemple, qu'il garantissait la liberté de la recherche, tout en exigeant cependant la responsabilité dans la communication des résultats. C'était, pour dire gentiment, l'obligation de l'autocensure. Mais les contacts avec l'historiographie non marxiste s'inscrivaient sans problème dans les cadres ainsi définis. Autant plus que ce sont les camarades soviétiques eux-mêmes qui ont qualifié de nihilisme le refus de dialogue. Alors, pour rendre compte de l'atmosphère qui régnait au début des contacts, rappelons le témoignage d'un des premiers boursiers hongrois arrivé à Paris en 1965, invité à déjeuner chez Brodel avec deux collègues en présence de Ruggero Romano. Alors, je cite. « Une fois assis, Brodel a sorti d'un placard une bouteille de cognac à peine entamée en disant que c'était celle de Lucien Febvre, intacte depuis sa mort, car elle était réservée pour une occasion très particulière et Brodel et Romano estimaient que ce moment était venu quand les historiens hongrois enfin étaient arrivés à Paris dans le cercle international des annales. L'apogée de cette première phase de la coopération était la conférence franco-hongroise d'histoire économique organisée en Hongrie au printemps 1968. Une délégation aussi nombreuse et composée d'historiens occidentaux aussi prestigieux ne s'était pas rendue à Budapest depuis 1945. Cette délégation, dirigée par Brodel, incluait entre autres Emmanuel Leroy-Ladurie, Georges Duby, François Furé, Denis Richer, Jean Bouvier, Maurice Lévy-Leboyer.
Ils ont apporté cette bouteille.
Je pense que les Polonais ont été également invités à goûter la bouteille avec les mêmes propos, mais ça n'empêche que c'est quand même un geste symbolique qui exprime bien la volonté et toute cette atmosphère. Mais oui, on peut avoir quelques petits soupçons. Ce que je voulais dire que... il faut aussi souligner que jusqu'au milieu des années 1970, l'initiative de Brodel constituait pratiquement l'unique possibilité pour les Hongrois, pour les historiens hongrois, de se rendre régulièrement en Occident. Un document interne de l'Institut d'Histoire le formulait très clairement, je cite. En ce qui concerne les relations avec les historiens des pays occidentaux, c'est surtout avec les Français que nous pouvons parler de résultats substantiels. La relation avec l'école pratique des hautes études ne représente pas seulement des possibilités de recherche, mais ouvre une fenêtre sur l'Occident pour l'historiographie marxiste hongroise, lui permettant de faire connaître ses résultats et éventuellement de les publier à l'étranger. De plus, Ces relations franco-hongroises ont été renforcées en 1979 par le contrat conclu avec la Maison des sciences de l'homme. Donc, la coopération est devenue véritablement intense. Au-delà du programme de bourse, elle a pris la forme de conférences régulières à Paris et en Hongrie, et même de projets de recherche communs. On peut dire que la partie hongroise du rideau de fer est devenue de plus en plus traversable de deux côtés. Il faut aussi souligner que les deux parties considéraient que l'accord entre l'Académie hongroise et la 6e section, puis l'EHESS, constituait le cadre de toute coopération en sciences sociales entre les deux pays. Bon, il est vrai qu'à partir des années 1970, les historiens, les économistes ou sociologues hongrois ont établi des relations avec d'autres universités françaises, mais tous ceux qui souhaitaient effectuer de longs séjours de recherche en France passaient par ce programme d'échange, par la bourse Brodel, comme on l'appelait couramment. Bon, bien sûr, les services secrets qui utilisaient l'Institut hongrois de Paris comme couverture surveillaient en permanence la 6e section puis l'EHESS, car ils les considéraient, et je cite un rapport, comme l'une des bastions de la politique française de déstabilisation idéologique de la Hongrie. Mais ils n'intervenaient pas directement dans le programme. D'ailleurs, Brodel lui-même était jugé plus positivement, comme l'a formulé l'un des agents. Il n'était pas marxiste, mais il avait des opinions plutôt gauchistes. Donc il ne faut pas non plus oublier que Brodel a aidé les historiens hongrois, même en dehors des cadres officiels, pour faciliter leur intégration à la communauté scientifique internationale. Je ne mentionne ici que la série de colloques d'histoire économique organisée à Prato par l'Institut Datini. Grâce à Brodel, des historiens hongrois y étaient régulièrement invités dès 1970. Donc, pour l'ensemble de ces efforts, Brodel a été élu par l'Académie hongroise des sciences membre d'honneur en 1981. Alors, ce n'était pas mon propos de parler de la réception de la pensée de Brodel, néanmoins, brièvement, quelques mots sur ce sujet. Malgré le rôle central qu'il a joué dans la reconstruction des relations internationales de l'historiographie hongroise, l'œuvre de Brodel a été très peu traduite en hongrois avant 1989. La Méditerranée a été publiée en 1976, les deux volumes de l'identité de la France seulement en 2003. De son vivant, un seul de ses livres a été publié en hongrois, le premier volume de la civilisation matérielle. En dehors de cela, seuls des interviews ont été publiées avec lui dans diverses revues et encore trois textes importants, donc l'article sur la longue durée en 1972, puis le texte pour l'encyclopédie Le monde en devenir et le premier chapitre de troisième volume de la civilisation matérielle auquel on peut ajouter un tout bref extrait de la Méditerranée. Mais tout cela ne reflète pas fidèlement l'influence réelle de ces idées, comme l'a démontré mon collègue János Kolmár, d'ailleurs ancien participant à une série de conférences de Brodel. Juste pour donner une démonstration, je ne mentionne que l'enseignement universitaire. Donc, mon collègue Kolmár évoque le souvenir d'un professeur de l'Université de Budapest, je le connaissais bien, Éva Hábolás, admiratrice de Brodel, qui demandait aux étudiants francophones de traduire des chapitres de la civilisation matérielle dès sa sortie en France en 1979, ou encore qui proposait à ses étudiants des sujets de thèse inspirés de la Méditerranée et de l'œuvre de Brodel, comme par exemple Brodel et les problèmes de la Méditerranée dans l'historiographie française des dernières décennies, c'était proposé en 1978, ou l'utilisation pédagogique de l'œuvre de Brodel, c'était proposé en 1981. Mais en ce qui concerne mon propos principal, les efforts de Brodel en matière de coopération avec l'autre côté du rideau de fer, son travail s'est avéré incontestablement durable et efficace. Les successeurs de Brodel à la tête de la 6e section et de l'EHESS ont continué sa politique internationale en accordant une attention particulière aux relations avec les historiens et les représentants des sciences sociales des pays socialistes. Et lorsque, en 1989, la direction de l'EHESS a décidé de réviser ses relations avec les pays libérés de la tutelle soviétique et en mettant au premier plan les universités et la formation de jeunes chercheurs, elle pouvait s'appuyer sur la coopération et des liens établis par Braudel. Cette base était déterminante pour la réussite de la fondation des unités de recherche et de formation à Berlin, à Varsovie, à Prague, à Bucarest, à Sofia et Budapest. Ces filières de l'UHSS, sous le nom de l'atelier, ont été initiées par Marc Auger. Leur mise en place est principalement due à Rosemarie Lagrave et Jacques Revel. Ces ateliers ont joué donc un rôle important dans le renouvellement du milieu universitaire après la chute du communisme. Du côté hongrois, Jozsa Granatsztói, cofondateur de l'atelier de Budapest, lui-même ancien bénéficiaire de la bourse Braudel, a réussi à intégrer cet atelier franco-hongrois en sciences sociales et de formation doctorale en tant que département universitaire à part entière à la faculté des lettres de l'Université Eötvös Loránd de Budapest et donc qui continue sa coopération avec l'UHESS comme l'un des héritiers de l'initiative de Fernand Braudel. Et je voudrais faire une toute petite remarque parce que dans les mots présidentiels pour ouvrir le colloque, notre attention était attirée au fait que l'objectif du colloque, ce n'était pas de faire une hagiographie de Braudel. Alors, dans le domaine dont j'ai parlé, il est difficile de faire autrement.
Merci. Je vais céder la parole sans tarder à Yann Merkel.
Bonsoir. I'm going to mix a little English and French, I think, but I'm going to start with a note of thanks, which of course we all have been doing, but it's particularly important to me because yesterday, the beginning of the conference, was Thanksgiving, which is my favorite holiday. It's not one of consumerism, but of giving thanks and of being together. And so je vous remercie Maurice qui m'a reçu comme thésard et a ouvert les archives de Braudel pour moi, qui a indiqué à moi il y a presque une décennie que je devrais peut-être lire l'histoire mesure du monde, qui a été, que j'ai lu attentivement, mais qui maintenant, j'ai le plaisir de voir réédité et commenté aussi. Et je me remercie aussi à d'autres chercheurs ici avec qui j'ai dialogué, mais que je ne connaissais pas forcément avant de venir ici. C'est la première fois que je vous connais beaucoup d'entre vous, et de vous écouter. This is an excellent conference that wouldn't have been possible without the Fondation, Maison des Sciences de l'Homme, without Hind Benfares, thank you Hind, and Marta Craveri in particular. I should say, and I'll get to this graph in a minute, or this map, as a teacher of history, we often talk about primary and secondary sources. So for me, Braudel is kind of my primary source. And Sanjay, who I'm just meeting now, is a secondary source, as well as Roger Chartier and some other people here. So it's interesting to have this kind of possibility in front of me. And also, we should thank, of course, Braudel, without whom we wouldn't be here, for giving us this great oeuvre to reflect upon, and not only for the work that he did, but also for those around him, specifically his wife, Paul, but many others as well. Enough in the spirit of Thanksgiving, but I couldn't help but think about, in a Braudelian sense, what follows, which is today, which is Black Friday. In France, I understand this lasts something like a week or maybe more. I even saw a sign walking along Boulevard Raspail or Black Fridays. What exactly does this mean? So a non-consumer holiday is followed by an arch-consumer one, the start of Christmas shopping. And of course, the black, for those of you who don't know, is the amount of ink that's going to be printed on receipts of people who are buying things. So I just started thinking, what would Brodel think about this phenomenon? You know, so I pulled up online this map, which apparently is from data from 2021. Some of you could probably make better ones that reflect the penetration of consumer capitalism in the past 5 years. But here we have some sense of both the reach of this concept, but also perhaps the air culturel, the extent to which it has spread, and the places which remain perhaps outside of its scope. And so we see, of course, we can think of a kind of analogy for Brodel with the precious metals coming into Europe via Spain, but Spain not necessarily controlling the destination to which these metals go and the direction of capitalism that it had unleashed. We can think about that perhaps in the same way with Black Friday, with as Maurice was saying in relation to the third section of the third volume of Capitalism and Material Life, that we have large international corporations who don't pay taxes anywhere, who are getting goods from China and then selling them different places. So is this a symbol, a symptom maybe of American supremacy? Yes, but it's also something that the US is not in control of. So this just started getting me to wonder, and you know, I apologize if this feels a little bit of a digression, but I think that there are a lot of ways in which we can push this forward beyond the wonderful historical reflections that many of you early modernists have brought us to talk about. So Sanjay invited both Gabor and me to speak for about 15 minutes, but Gabor told me already that at the reception that he would take the whole 20. So I thought I'd be a little bit short, brief here and get to the point. But there are two themes that I want to touch upon. Maybe we can go to the next slide here. One is Brodel as a global historian and what we can possibly learn from him. And the other is Brodel as an institution builder, and particularly here as well. So we have this image, these images, these photos taken actually by Claude Lévi-Strauss, of Sao Paulo in the 1930s. And this was the city in which Brodel had his first university position. And with colleagues such as Lévi-Strauss himself. So this is something that I've worked on myself, but I think it comes to a broader point of how not only Brodel's intellectual interest shaped his approach to the world, but also his life experience did as well. So Algeria, to start, and Brazil as well. So Algeria, of course, opened Brodel to the south of the Mediterranean, l'autre rivage du Méditerranée, de la Méditerranée, also to the Ottoman Empire. So we've spoken about the second edition of the Mediterranean, but I think it's not only because of the critiques that he faced, but also because he knew himself that he must have known himself, having lived in Algeria, of the insufficiency of his knowledge of the Ottoman Empire that he needed with the production of new scholarly research to deal with this question. So we learned a lot about ways to push this forward yesterday with Mohammed, Darren, Guillaume, Mike, among others. But I also think that even if there are many limitations to what we can think of as, you know, Brodel's global reach, we can criticize him for, there are a lot of ways in which he was a precursor. You know, I'm thinking of Ousmane's presentation on Africa, you know, Monnaie et civilisation de l'or du Soudan à l'argent d'Amérique. He doesn't speak about Mansa Musa. He doesn't speak about the gold inflation created by Hajj that Mansa Musa undertakes. But yet, I think for a European historian of his time, that's pretty interesting, you know? So a term that came up a bunch is civilization that we talked about. This is not only a question of what Brodel imagined himself to be doing, but his first job in Brazil, in this city of Sao Paulo, was literally called the History of Civilizations. That was his first job that he was expected to have something to say about. And he took this after the historian who in some ways became more of a Brazilianist than him, Emile Cournert. So this is the place in Sao Paulo where Brazil, where Brodel started his transformation from a Hispanist, a specialist of Spain, to something bigger, a historian of, among other things, the Iberian expansion in the Americas. And when he comes back from Brazil, this is actually his first position at the École Pratique des Hautes Études, in which he highlights this specialization. Iberian expansion in the Americas. And so just like his knowledge of the Ottoman Empire, which is incomplete, which can be criticized, which reveal the limits of a global Brodel, we can see how his life experience, first in Algeria and then in Brazil, helped to broaden his understanding of the Mediterranean. But it also did, we can show the next slide here, his life experience was also one of interdisciplinarity and field work, even if those, his field was the archives. So here we see him in the interior of Sao Paulo with Dina Levi-Strauss in front of him, a philosopher, Jean Mogué. It's not all that important that you know them, except Dina, perhaps, who is extremely important for Claude's intellectual career as an anthropologist, and who's, there was just a dissertation defended last week on this. But we see Brodel on an excursion with the Association of Brazilian Geographers. And so this idea, even if we're dealing with a historian who is very much based on archival sources, right? I don't think there's any question about that, at least for the Mediterranean, that his sensibility, his understanding of the societies that he's studying is informed by the people that are his colleagues, Claude Lévi-Strauss, Dina Lévi-Strauss, Pierre Monbeg, the geographer, his understanding of the relationship between cities and the hinterland, between the coast and the inland places that are allowing the shipping to have the success that it does, between the centers, the booming centers of capitalism and the autarkic places that they're penetrating into, right? So this is part of his sensibility, as well as his engagement with, as I've tried to show, with Brazilian scholars. So the economic historian Robert Simonson, the social historian Gilberto Freire, you can see this, of course, in L'Histoire Mesure du Monde, Kyle Prado Jr., who is a forerunner of dependency theory. And so I saw this, I couldn't help but see this with Charlotte's presentation on the dépendance des exportations et des importations when we're talking about Bahia, that this kind of idea of a world systems theory that, you know, at least there was some kind of connection between Brodel and Wallerstein there, also had its precursors in 1930s Brazilian scholarship. Brodel and global history, I think we've sort of covered, but there's more that we can say. The difference between world economies rather than the world economy, again, we can criticize him for his overconfidence in the scale of his initiative, but I also think that there's something humble about his approach to always learning about from those who knew more than he did about other places. So Brodel never became the Brazilianist as Lucien Febvre had maybe encouraged him to be. We might ask the question, of why he didn't, and I don't think it's just because of he was busy building other institutions, but maybe because precisely this idea of an heir culturel for him didn't seem to be an intelligent way of investing his time in terms of a career. But in any case, even if we're dealing with the Mediterranean itself, I think it's very clear that Brazil and Latin America more generally encouraged Brodel to rethink the Mediterranean's place in the 16th and 17th century world in the context of an expanding global economy. That's what Iris was speaking about in Décloisonnement géographique of Europe. And the, for me, this is the clearest, actually, in the second part of the Mediterranean collective destinies and general trends. So we could talk more about this. We could talk about this. These debates, I think some of you know the early modernists more than I do, about to what extent does the Atlantic actually dethrone the Mediterranean and when, and Brodel changes his mind on various accounts about this. Sometimes you're kind of wondering why he keeps insisting on the centrality of the Mediterranean for longer than perhaps others would claim, but there is something there about Brazil and Latin America allowing for the opening of this. So the last point that I want to make here, and this is perhaps a funny image to end with, but I'll get to why this is the case, is to think about Brodel as this institution builder. So here we have a colloque, maybe like this one, I wonder how well it was attended, about sens et usage du terme structure dans les sciences humaines et sociales. This is not actually organized by Brodel. It's not even something that he contributes to, although immediately after this, he publishes, Histoire et Sciences Sociales, La Longue Durée, in some ways in reaction to what's going on here, right? So these are colleagues, some of whom he worked alongside in Brazil, and some of whom he also brought to teach at the sixth section of the École Pratique des Hautes Études, such as Roger Bastide, because of their knowledge of Brazil. So we see this scenario the great term of structure, which will divide Brodel and Levi-Strauss in some ways, right? In which there's been so much written about. But it's also important to remember that he is in many ways the architect of the very infrastructure in which these kind of debates are going to be happening, right? And I think that that's something that we can stop to think about here. Another contributor to this is François Perrou. I feel like I'm repeating myself here, but who also spent time teaching at the University of Sao Paulo in the 1930s, although they didn't overlap there. We have Brodel as this institution builder at the sixth section of the École Pratique des Hautes Études, also the Fondation Maison des Sciences de l'Homme. This is something that he started doing at a very young age at the University of Sao Paulo. He was familiar with cultural diplomacy because he was employed by the French state to do cultural diplomacy in Brazil. He had these connections, he had this experience from a very young age, and he used this in some ways tyrannically, sure, but in other ways, I think, very intelligently to create space for a new kind of way of doing social sciences. He built upon both his knowledge of and his networks in Latin America and later the United States to expand the social sciences outside of the university system, to expand them in a way that allowed for precisely empirical work on places that were not European necessarily. So for whatever we might critique him for the limits of his own perspective, perhaps as being Eurocentric in some ways, he definitely opened up a lot of space for people who were not in France in the 50s, 60s, 70s. I think I'll just close there, but for me, the one of the, you know, the two kind of interesting things to talk about among many others are the ways that Brodel always seemed to want to learn more, to expand his knowledge, to support those around him, although I know that there are examples of the contrary, and to build institutions such as this one that allow for these kind of conversations to be happening. So thank you.
Thank you. So where do we stand on our questions? I mean, I think what is clear is that maybe we should have some more work done about Brodel's influences in life and readings. Maybe I would like to ask Sanjay, I mean, in a certain sense, what made Max Weber a compulsory reading in the French context of the 1930s? Because except from people like Raymond Aron, maybe Max Weber was not so much, it became very influential in the United States because of migration of, Jewish scholars knowing Max Weber from their German context. But I wonder to what extent, I mean, Max Weber was so important for Brodel to the urge to read Max Weber in the 1930s compared to other geographers, and also in the second volume of Civilisation Matérielle, there is some kind of a discussion of Max Weber. One thing which strikes me also is that even Immanuel Wallerstein, who so much of a Weberian author, doesn't really cite Weber as such. I mean, it's like natural. So maybe it was so natural for Brodel to talk about Weberian state building, or it was not the kind of priority he would have. So maybe we can, I would like to ask you that. I mean, was it compulsory?
Non, pour moi, c'était. Je ne dis pas que c'était quelqu'un d'incontournable, mais je dis si on a en tête un certain type de sujet, hein, à ce moment-là, ça devient difficile d'éviter. Donc, si on parle de civilisation, et pas une fois, mais maintes fois, et si on rejette, et avec raison, Toynbee, et avec encore plus de raison, Spengler, donc, si on a envie de traiter ces questions de civilisation à l'échelle globale, où est-ce qu'on va aller? C'est ça le problème. Et en fait, le problème, ce n'est pas une question de si on est en train de parler de quelqu'un qui était un Allemand, qui écrivait en allemand et tout cela. Non, c'est une question de savoir si on regarde les ressources, disons, à l'échelle globale. On avait quoi comme référence théorique pour aborder ce genre de sujet si ce n'était pas Weber? C'est ça le problème. Et en plus, j'ai toujours gardé en tête quelque chose que dans les années 80, un collègue et ami allemand m'avait dit. Il m'avait dit qu'en Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, parce que on ne voulait pas parler de Marx, on parlait de Weber. Hein? Donc c'était une façon de même pour aborder les questions marxisantes sans prononcer, c'était un peu comme Voldemort dans Harry Potter. Hein? On ne pouvait pas dire le mot Marx par peur de lui, et donc on disait Weber. Hein? Et donc pour moi, ça me laisse un peu perplexe. Donc, bien sûr, il y a l'autre possibilité, c'est-à-dire qu'il avait ça en tête sans l'exprimer. Mais là encore, par exemple, quand on revient à cette idée que je trouve intéressante, parce que vous voyez, un certain nombre de gens qui ont écrit des comptes rendus des trois volumes de civilisation, etc., ils ont retenu l'idée que Brodel restait optimiste sur le capitalisme. Hein? Qu'ils ont retenu l'idée qu'ils pensaient qu'il y avait un capitalisme possible qui n'était pas un capitalisme de monopole. Bien sûr, il ne faut pas imaginer qu'à l'époque, dans les années 80, les gens avaient déjà le spectre de cette idée du néolibéralisme. Ça n'existait pas à l'époque. C'était une invention postérieure. Et donc, je pense que pour quelqu'un qui a envie d'avoir une vision de ce qu'on pouvait sauver du capitalisme, plutôt que d'imaginer que le capitalisme est destiné à une fin ignominieuse, hein, si on veut sauver quelque chose du capitalisme, encore, il faut passer par Weber.
Il y a un autre auteur qui a été cité, qui est donc François Perrault, qui a effectivement été au Brésil aussi, donc peut-être pas dans la même temporalité exacte, mais François Perrault est revenu du Brésil avec un des modèles qu'il a utilisé donc pour développer une nouvelle conception du capitalisme, qui est donc la forme corporatiste de l'organisation de l'économie. Et je me demandais, en écoutant Yann, dans quelle mesure on peut contextualiser un tout petit peu plus précisément Brodel dans cette époque brésilienne. Est-ce qu'il en retire quelque chose à propos de cette dynamique corporatiste de la même manière que le fait Pérou? Évidemment, peut-être que c'est pas son first concern, mais peut-être que il cite pas mal Pérou dans Civilisation matérielle. Donc voilà, est-ce que la contextualisation brésilienne s'applique aussi à des dimensions politiques qui sont sous-jacentes?
Mais tu sais que je pense qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose de très intéressant sur l'héritage de Brodel, c'est-à-dire que c'était il y a 10 ans, ou je ne sais pas, 15 ans, les gens disaient, c'était pas l'histoire du commerce, mais l'histoire du capitalisme, et tout le monde qui fait l'histoire du capitalisme maintenant est de gauche, en fait, aux États-Unis au moins, qui se dit historien du capitalisme. Et là, on a Brodel, qui, je ne vais pas mettre des étiquettes sur lui, mais qui n'est pas forcément de gauche, mais que je vois avec Gabor aussi, le fait qu'il était assez économique, comme on dit ça, par rapport à des gens qu'il fréquentait et avec qui il dialoguait. Du coup, il pouvait avoir des dialogues avec les communistes. Un des intellectuels les plus proches, il a deux intellectuels brésiliens qui, pour moi, sont les plus importants pour lui. Et une est Gilberto Freire, qui est un peu un libéral, un peu étrange. Et puis, il y a Caio Prado Jr., qui est un communiste, qui effectivement emprisonné et puis en exil en France. Et du coup, quand Brodel, en 38-39, quand il est à la Bibliothèque nationale, il prépare un peu sa thèse, Caio Prado Jr., le communiste, est là en exil et ils dialoguent ensemble. Et du coup, je pense que le François Perrault aussi, on peut avoir un corporatiste qui aussi, bizarrement, même si vichyste, a été très important pour la théorie de la dépendance et les gens, les économistes et sociologues de gauche en Amérique latine pendant les années 70 et 80. Du coup, je pense que Brodel était, corrigez-moi si vous voulez, mais il était ouvert à écouter toutes ces possibilités et ne pas entrer trop dans sa propre écriture de l'histoire, dans une version idéologique de quoi que ce soit, même si peut-être en public ou politiquement, il avait d'autres choses à dire.
Question à Gabor et ensuite je laisserai Sanjay peut-être animer la discussion et peut-être qu'on l'ouvrira aussi à l'ensemble des gens qui sont ici. Mais une question très provocatrice dans la mesure où cette maison des sciences de l'homme a été très largement fondée grâce à la générosité de la Fondation Ford qui, dans un contexte de guerre froide, avait quelques intentions, même si je pense que, par rapport à ce que j'ai dit hier, je ne vais pas me démentir, Brodel est un constructeur d'autonomie scientifique et il a su repousser ses intentions. Est-ce que le programme est-européen est lié justement à... est-ce que dans cette opération, la Fondation Ford a joué un rôle? Est-ce que le contexte d'ouverture était lié aussi à une volonté plus politique, voilà, vis-à-vis des pays de l'Est, de l'Ouest ou des États-Unis?
Je peux donner très certainement une réponse partielle, mais... la Fondation Ford a proposé aussi des possibilités dès les années 1960 à des historiens hongrois des voyages, et notamment le vice-directeur de l'Institut d'Histoire, Georg Ranke, qui était un éminent historien en économie, d'ailleurs marxiste, mais marxiste plutôt version occidentale, donc pas du tout vulgarisant et tout. Il a reçu aussi une proposition d'aller aux États-Unis. Il a fait une virée de 5 semaines. Et à la retour, il était bien sûr contacté par les services secrets de continuer la coopération avec eux, cette fois-ci déjà, regarder un peu plus près ce qui se passe dans son institut. Alors Ranke, qui était obligé de faire un rapport, comme tout le monde, à la fin du voyage.
Georg Ranke.
Oui. À la fin du voyage, il a carrément refusé la coopération avec le service en me disant que à partir de ce moment-là, je dialogue avec vous seulement dans des cadres officiels. Donc, c'était possible. Mais bien sûr, ces jeux, dans les années 60-70 aussi, étaient dans l'air. Je voulais revenir un petit peu à la remarque de Yann pour préciser que Braudel, disons que, n'a pas trouvé forcément de pur plaisir intellectuel de dialoguer avec des représentants du régime communiste, par exemple en Hongrie, mais il était très rusé. Donc il savait avec qui il faut s'entendre, et par ce biais-là, il pouvait... en faire que les historiens qu'il voulait faire venir en Hongrie reçoivent la possibilité de le faire. Donc avec le président, avec le directeur de l'Institut d'Histoire, qui était un grand communiste, je dirais quand même beaucoup plus version est-européenne, il a maintenu des relations très très polies, très très amicales, formelles, et il a réussi de faire venir, comme je l'ai dit, des historiennes dites bourgeoises, parce que à partir des années 1960, quelques anciennes représentantes de l'historiographie d'avant la guerre pouvaient retrouver leur place à l'Institut d'Histoire. Ils étaient sur surveillance, ils étaient appelés représentants de l'historiographie bourgeoise, mais ils pouvaient quand même exister et même travailler. Et un peu plus tard, notamment grâce à Braudel, aussi faire des voyages. Je pense à Laszlo Makkai, je pense à Kálmán Benda, je pense à Domokos Kosári, que vous connaissez très bien. Bon, merci.
Je voulais juste rajouter une petite chose, c'est-à-dire, il me semble que, comme en fait en Hongrie et en Pologne, c'était aussi des endroits où on a développé ces idées, par exemple, même dans les années 60-70, d'économie mixte et des choses comme ça. Et je pense notamment à des gens comme Kaleski, je pense à István Hont, des gens comme ça. Donc je me suis demandé que, comme en fait la France, la tradition économique française, contrairement à beaucoup d'autres traditions occidentales, avait aussi des tendances dans ce sens. Je pense notamment, par exemple, quelqu'un comme Edmond Malinvaux était quelqu'un qui avait aussi pensé un peu ces questions-là. Donc, est-ce qu'il y avait une influence à cause de ces échanges dans cette façon, pas seulement des historiens, mais aussi des économistes ou des historiens de l'économie dans leur façon de penser dans ces pays?
Alors la toute première prise de contact avec Brodel, c'était grâce à une économiste, Georges Zucker, qui est venue à Paris en 1959 à une invitation de Charles Bettelheim de parler du problème de l'économie planifiée. Voilà, pour un exemple concret. Et c'est là où tout se commence.
Bien, je vais proposer de peut-être passer à quelques questions de la salle. Je crois qu'il y en a déjà deux, trois.
Oui, merci. Merci pour l'organisation de ce colloque. Merci au professeur Subrahmanyam, je ne sais pas si je prononce correctement, qui m'a fait comprendre pourquoi, dans les années 1970, en tant qu'étudiante faisant un PhD à UCLA, j'ai pu lire Max Weber, l'ouvrage de Max Weber sur la ville et civilisation, qui avait été traduit en anglais, parce que je ne parle pas l'allemand, qui avait été traduit en anglais dans les années 40, fin 40 ou 50. Enfin, excusez-moi, là, je n'ai pas la date précise en tête. Et chez nous, en France, l'ouvrage a été traduit à la fin des années 1980. Alors que pour moi, c'était important, juste, je travaille sur les transformations de la ville au cours de l'histoire récente, urbanisation et métropolisation. Donc, néolibéralisme. Alors, la question que je vous pose, parce que je fais du terrain aussi bien en France qu'aux États-Unis, et je travaille avec la démarche comparative comme méthode, la question, vous avez terminé votre présentation en disant, mais après tout, pour comprendre le monde, est-ce uniquement le rôle de l'histoire globale ? Je pense que j'ai compris, c'était votre question. Moi, je souhaite savoir quel est votre positionnement par rapport à la comparaison, à la démarche comparative pour comprendre le monde. Voilà.
Je pense, je me suis exprimé quelques fois et parfois d'une façon relativement polémique par rapport à cette question-là. Parce que moi, je trouve que, bien sûr, l'histoire comparative, c'est nécessaire. Et si on a besoin de savoir pourquoi, il suffit d'aller re-regarder le texte classique de Marc Bloch sur ce sujet-là, écrit dans les années 20. Et toutes les raisons qu'il énumère là restent. Sauf qu'il faut aller beaucoup au-delà des limites des comparaisons qu'il avait définies dans ce cadre. Hein, parce que lui, il pensait essentiellement que c'était des comparaisons qu'on faisait à l'intérieur de l'Europe. Mais il s'avère aussi qu'il y a certains moments dans l'historiographie quand il y a un certain type de comparaison qui devient très fatigué. Parce que ça devient tellement stéréotypé ou parfois ça devient juste une façon de définir des hiérarchies absurdes. C'est-à-dire, on fait la comparaison pour dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut être en tant que société, et les autres sont des sociétés manquées. Hein? Donc on dit, par exemple, vous voyez, comme vous travaillez sur les villes, pendant un certain temps, il y avait des types de comparaisons où on disait, dans le monde islamique, il n'y a pas de ville. Hein? On disait ça. Non, je cite textuellement. Il y a un article très intéressant de André Raymond portant précisément sur ce sujet-là, parce qu'on dit là où il n'y a pas suffisamment l'influence romaine, il n'y a pas de vraie ville. Donc en Chine, il n'y a pas de vraie ville. Et c'est le résultat donc d'un certain type de démarche comparative. Et quand on arrive à ce genre de façon de faire des comparaisons, moi je dis, on met en parenthèse les comparaisons, on arrête pour un certain temps et on fait autre chose. Et puis, on peut reprendre le souffle et on peut revenir à la comparaison avec d'autres questions. Voilà.
Merci. Juste à propos de Max Weber, j'ai été étudiant en sociologie entre 62 et 67. J'ai donc étudié avec Georges Kurvitch, Passeron, Establet et Aron. Et la marotte d'Aaron, c'était Max Weber. Et à l'époque, nous étions tous marxistes ou marxisés. Et pour nous, il est évident que tout ce qui était de l'ordre de la superstructure n'était pas digne immédiat ou fondamental d'étude. Donc Aaron était banni de l'ensemble des problématiques. Et en ce sens, quand je relis, par exemple, l'ouvrage de Brodel, qui vient de l'histoire du monde, et que je lis que l'événement, la poussière de l'histoire, je retrouve les mêmes logiques de superstructure, infrastructure, et je retrouve la même logique de mépris de ceux qui ne s'appesantissent que sur la superstructure. Et Aaron, comme il présentait Weber, il nous faisait la preuve que Weber ne s'occupait que de la superstructure, il était donc mineur. Et donc Brodel, je comprends qu'il ne s'intéressait pas particulièrement à la mise en avant de Weber.
Merci beaucoup pour la table ronde. Merci à Gabor Schoch d'avoir rappelé aussi que les annales étaient une institution qui était aussi un enjeu de diplomatie intellectuelle et universitaire. Et je pense que c'est parmi les institutions de Brodel aussi une institution qu'il n'a pas créée, mais qu'il a stabilisée vraiment fortement. Et donc là, on le voyait très bien avec votre présentation. Sur Weber encore, désolé, on ne fait que parler de Weber, mais en même temps, il y a quelque chose de très intéressant aussi. Il y a un très beau livre de Vincent Genin sur l'éthique protestante et sa réception chez les historiens français, où il montre très bien que pour Fèvre, pour Bloch, pour tous les historiens de cette génération, Weber était une espèce d'hérétique un peu étrange. Il est recensé par Alvax dans les annales, un peu écarté. Et en fait, Brodel a un rapport un peu différent, me semble-t-il, à cela. Il hérite de ça, et clairement dans la Méditerranée, il est absent, mais pas dans la troisième édition de la Méditerranée. Dans celle de 1979, tout le passage qu'il ajoute sur la différence de croissance Méditerranée-Europe du Nord, c'est une interprétation de Weber et de l'éthique protestante, et il dit « je vais, dans un livre sur le capitalisme, une trilogie, en découdre, etc. » Et c'est vrai, quand on regarde ensuite la trilogie, il évite un peu le débat. Il l'écarte, là. Et alors, c'est une lecture, je pense, qu'il fait, mais qui est très embarrassante. Et c'est peut-être ce que vous décriviez, hein, c'est-à-dire les catégories ne fonctionnent pas dans son schéma. Mais c'est un embarras qui, je pense, est lié à l'ombre portée de Raymond Aaron, vraiment sur Weber et sa réception par les historiens français de ces années-là. Et ça apparaît, me semble-t-il, dans cette trajectoire. Et c'est pour ça aussi que je crois qu'il lit Zumbart, il lit Weber. C'est vraiment dans sa bibliothèque. Mais il n'en fait pas grand-chose, un peu à la façon dont Bloch pouvait lire Marx et lire Zumbart sans dialoguer explicitement avec eux, me semble-t-il.
Il y a aussi quelque chose que j'aimerais souligner, c'est-à-dire que j'imagine, je ne suis pas sûr, que dans les années 70, Brodel a commencé à lire beaucoup plus dans le cadre, par exemple, de l'histoire asiatique, justement pour faire ce qu'il était en train de faire. Alors, quand on lit l'histoire asiatique, à l'époque, surtout par rapport à ces questions de commerce, ces questions de par exemple, des compagnies des Indes, des choses comme ça, il y a quelques ouvrages à ce moment-là qui sont vraiment considérés comme des ouvrages très importants, parmi lesquels, l'ouvrage d'un sociologue historien néerlandais, Jacob van Leer, qui était weberien, et donc qui avait essayé de faire une interprétation weberienne du commerce de l'océan Indien. C'est publié sous le titre Indonesian Trade and Society. Et par la suite, il y a un historien danois, Niels Tinsgaard, qui avait fait ce livre très weberien, qui faisait la comparaison donc entre les compagnies de l'Europe du Nord, anglais et néerlandais, et de l'autre côté, les Portugais et les Espagnols. Alors, Stiesgro était, qui était un ami à moi, il faut le dire aussi, était un grand admirateur de Brodel, et je me demande si Brodel n'avait pas lu Stiesgro, lui aussi. Et donc, il se peut que, En réalité, c'était en passant par cette lecture extra-européenne qu'il est peut-être revenu avec une autre idée de comment on pouvait aborder ce qu'on pouvait faire avec Weber.
Thank you. I want to say that, first of all, I found very interesting the fact that Braudel and the French academics had this dialogue with the Hungarians. But since I'm from Italy, I was asking myself if there had been any kind of relationships through the Italian Marxist academics. Because, for example, Delio Cantimori didn't want to translate La Méditerranée in 1949, if I remember well, and he was a part of the Communist Party at the time, while Antonio Rotondo was one of his fellows, who was part of the Communist Party too, if I remember well, tried to expand the vision of Braudel through the studies on tolerance and the contacts with Islam, Jews, and those kind of matters. And so my question was if there had ever been any kind of relationships through the Italian Marxists, especially during the period of Ambrogio Donini, for example, who had a lot of communications of dialogues with the DDR, for example, and translated the articles through Interstampa. Thank you.
So I'm just going to deflect this question to Maurice Aymar, if we want someone to answer this. I mean, Sanjay certainly has something too, but...
You know, if you read any autobiographical essay or article by Karl Ginzburg, and you ask him how he became a historian, he'll also always give you the same answer, which is Delio Cantimori, who was his teacher, made him read Les Rois Tomateurs, right? And that was how he says he became a historian. He said that he used to have this exercise because apparently Cantimori had what he called slow reading. So in every seminar, they would read 15 lines of this book. That's all, 15 lines for a whole seminar, right? And by going over this thing line by line, etc. So certainly it was not that the Annales were treated as such with disdain. Now, it might be that people were making fine distinctions between different members of the Annales, but you know, Bloch was hardly perceived as a Marxist either, right?
There is a relationship that I'd like to mention and understand, and I'm not sure. Je vais peut-être parler en français parce que tout le monde a pris ce biais alors que je pensais qu'on allait le faire en anglais. Mais la relation entre Fernand Braudel et Emmanuel Wallerstein m'intéresse beaucoup. Je ne suis pas sûr d'avoir fait le tour de la question. Il y a eu ici, il y a 2 ans de mémoire, un colloque en hommage à Emmanuel Wallerstein. Bientôt, il y aura une publication ou plusieurs sur Emmanuel Wallerstein. Et ça renvoie un petit peu aux discussions qu'il y a eu tout à l'heure sur l'histoire globale, parce que, encore une fois, peut-être que je me trompe ou que je mets les pieds dans le plat, et à ce moment-là, il faut me le dire, mais si on compare à d'autres intellectuels de son époque ou plus jeunes, Fernand Braudel, je ne suis pas sûr qu'il ait laissé une sorte de grande armée de disciples, ou en tout cas peut-être une génération, peut-être pas deux. En revanche, à travers Emmanuel Wallerstein et la théorie des économies mondes et du world system, il y a toute une... un courant qui s'est développé, qu'on peut appeler un courant d'histoire globale, ou en tout cas d'interrogation sur la globalisation. Finalement, c'est plutôt par cette internationalité que Braudel a aussi touché, à travers Wallerstein, des publics très très variés. Voilà, donc je m'interroge toujours sur cette espèce d'héritage à distance, en fait, de toute une communauté qui est, voilà, très tournée vers vers Wallerstein, mais donc à travers Braudel. C'est un petit peu une réponse à l'interrogation sur Weber. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que les auteurs rentrent dans un univers national via des liens directs. Ça rejoint ce que tu disais, Sanjay.
J'ai juste deux petites choses à dire. Premièrement, je pense que en France, la situation était franchement assez compliqué par la relation difficile entre Braudel et le roi. Non? Donc, le roi ne voulait pas être l'héritier en titre qui allait continuer la lignée et tout cela.
Hein? Voilà Dieu.
Ouais. Mais par contre, je vais rajouter une autre influence qui compte pour nous, lusophones. C'est-à-dire que Braudel a beaucoup influencé l'historien portugais que Iris a mentionné, Vitorino Magalhães Godinho. Et Godinho a fait un peu école, mais plutôt dans le cadre du monde lusophone et du monde de l'Empire portugais. Donc c'est une autre voie, encore une fois, une voie qui sort de la France et de la francophonie, même si Godinho, à la fin de sa vie, disait qu'il était devenu tellement français qu'il parlait français mieux que portugais. Mais c'était aussi un peu de snobisme, non?
Je ne sais pas, je ne suis pas de cette génération-là, mais vous pouvez peut-être dire qui sont les gens qui s'identifieraient comme Wallersteinien. Parce que moi, je ne les connais pas. C'est vrai qu'il a eu une influence assez significative dans des milieux de gauche et aussi en Amérique latine, mais ça a été pour une courte durée aussi. Du coup, je ne sais pas si, comme il était plus jeune que Braudel, je pense que si on mesure l'influence pendant les générations, ce ne serait pas trop différent que voir que, oui, il y avait Moreau et Chaunou et d'autres qui ont suivi Braudel. Il y avait, j'imagine, les équivalents pour Wallerstein, je ne sais pas qui ils sont.
Comme Yann vient de le rappeler, il n'était pas de la même génération. Et quand Braudel termine son livre en 79, ses trois volumes, pour lui, c'était un peu une forme de corvée qu'il avait hérité de Fèvre. Ce n'était pas forcément le livre. Il a poussé jusqu'au bout. La rencontre avec Wallerstein a compté énormément sous forme d'influence réciproque. C'est-à-dire, ils se sont aidés mutuellement, mais à une étape tout à fait différente de leur vie. Braudel avait 77 ans quand il finit, et Wallerstein était beaucoup plus jeune. Mais Braudel a fait tout ce qu'il a pu pour promouvoir Wallerstein en France, et même une partie de l'Europe occidentale, je vois l'Italie. Il a réussi à le faire éditer, mais s'il y a une partie de l'opinion scientifique qu'il n'a pas convaincu, c'est les historiens. Du côté des historiens français de ma génération, finalement, il y a eu un rejet complet parce que les historiens français avaient choisi la route de la microstoria, qui était la piste, et les études de cas, etc., qui était la piste dominante. Et c'est pour ça qu'il y a uniquement en 2001 un retour à l'histoire globale aussi. Parce que il y avait la fin d'une époque, l'histoire des classes, l'histoire économique, tout ça, ça comptait pas. Et l'influence de Wallerstein, au contraire, était beaucoup plus forte. Du côté des sociologues, etc., etc. Braudel a essayé de l'imposer à Prato. Il a fait élire. On a fait une semaine de Prato sur développement et sous-développement. Et à peine Braudel a eu le dos tourné, Wallerstein est reparti. Et l'argument, c'était, mais ce n'est pas un historien, c'est un sociologue. Au contraire, vis-à-vis de... Je dirais uniquement deux choses, tout à fait personnelles. Sur Max Weber, il l'a lu, il le cite, mais il est totalement allergique à sa pensée. Il a demandé à personne d'autre. Et je crois que c'est l'espèce de construction systémique où précisément les termes sont des concepts avec, et où les termes ont un seul sens.
Pour Brodel, les mots l'intéressent quand leur définition est élastique. Et de ce point de vue-là, il ne l'a pas utilisé. Pour Marx, la situation est un peu différente. Dans le débat qui se développe en France en 1979 parmi les historiens sur le livre de Brodel, nous étions un petit groupe de plus jeunes historiens à l'époque qui se réunissaient une fois par mois à la Sorbonne, qui formaient le groupe d'études sur les transitions du féodalisme au capitalisme. Et Brodel a été convoqué pour une espèce de procès. Et l'attaque est une attaque très violente, parce que sortir le capitalisme du marché concurrentiel, c'était fort. Le mettre entièrement du côté du monopole et de l'oligopole au-dessus, et dans la zone d'ombre au-dessus du fonctionnement du marché quotidien. Alors Brodel s'en est tiré par une pirouette qui a ferré tout le monde, y compris ses critiques. Que voulez-vous ? Vous, votre seul but, c'est d'arriver jusqu'à Marx. Moi, je considère que je l'ai derrière moi.
Bien. On va conclure. Je vais peut-être céder un instant la parole à Sanjay.
Tout d'abord, je tiens à dire très sincèrement que cette collaboration que dure maintenant plusieurs mois, presque un an, je pense, a été pour moi un grand plaisir. Je pense qu'on a réussi à travailler ensemble, même si on le faisait à distance parfois. J'ai jamais imaginé que c'était possible d'organiser un colloque comme ça dans deux institutions assez éloignées. Heureusement, on avait peut-être deux langues en commun. Hein. Donc, c'était pas ça le problème. J'ai beaucoup apprécié l'aide de toute l'équipe de la MSH. Je pense que c'est pas que moi, mais c'est tous les invités, tous les gens qui ont passé ces deux jours avec nous. Je dois dire qu'on espère pouvoir sortir un volume sur la base des discussions et les papiers qui ont été présenté. Je vous donne pas une date. Vous savez que c'est toujours très risqué de faire ce genre de choses pour la sortie de ce livre hypothétique. Hein? Mais voici, c'est quelque chose qu'on a à l'esprit. Je dois dire que je pense qu'on a fait preuve que même si on a des différends, comme c'est tout à fait normal. On a des arguments avec, pour, contre Brodel, mais néanmoins, c'est quand même assez intéressant, assez remarquable. Quelqu'un qui aurait, 122 ans maintenant, quelque chose comme ça, décédé il y a 40 ans, qu'il peut toujours animer des discussions aussi vivaces, aussi fourni et en chair et en os, même aujourd'hui, je pense que c'est plutôt remarquable. Je vous remercie.
Vous me permettrez un mot de remerciement à tous les intervenants qui sont parfois venus de très loin pour leur riche contribution et aussi à tous ceux qui sont venus les écouter. Merci beaucoup, c'était une très belle journée. Merci à vous.